Clémence de ma vie.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Mi cuabo, Georgiana Vieux. Comme nous sommes heureux de vous avoir à notre table aujourd'hui. Je vous avoue que ça faisait un petit moment que j'étais impatiente de vous recevoir. Georgiana Vieux, vous êtes chef cuisinière chez Rouge à Nîmes, dans le sud de la France. Chef nomade, puisque vous changez un petit peu de table pour l'instant et en ce moment. Marseillaise d'adoption, que l'on dit souvent sans chichi, simple, franche. Et je crois que des quelques échanges que nous avons eus jusqu'à présent, je confirme la franchise et un sourire immense. En tout cas, vous êtes femme originaire du Bénin, du sud du Bénin. Cotonou, Ouida, est-ce que vous pourriez nous dire exactement? Et déjà, préciser le sud ou le nord, c'est important ou pas?
Bonjour Clémence.
Bonjour.
Non, mais je suis très heureuse d'être là. Et en plus, pour parler du goût de Cotonou. Alors oui, c'est important de préciser le sud ou le nord, parce que c'est vraiment deux cultures différentes. Après, il y a le sud-sud, il y a le centre et tout ça. Mais une fois qu'on a passé le centre et qu'on remonte dans le nord, c'est des cultures différentes, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis née à Cotonou. J'ai grandi à Cotonou. Ouida, ce sont mes ancêtres qui sont originaires de Ouida. Bon, enfin bon, mon grand-père maternel est né et grandi à Ouida, donc c'est pas non plus un ancêtre, quoi. Le grand-père, c'est quand même un peu plus proche que les ancêtres. Mais en remontant un peu plus loin aussi, j'ai une grande partie de ma famille maternelle qui est originaire de Ouida.
Vous êtes là aussi parce que vous avez publié un livre qui s'appelle Le goût de Cotonou aux éditions du CAS, qui est un magnifique livre avec les photos de Maki Manoukian, les textes de Mayalène Zoubiaga. Il a été publié donc au printemps, je l'ai dit. C'est un peu une plongée tête la première dans vos racines. Et vos racines exprimées. Et puis, je dois vous l'avouer là tout de suite, c'est une torture votre livre.
Pourquoi?
Mais parce que c'est horrible, parce que déjà, on apprend plein de choses, donc ça c'est objectivement très intéressant, mais c'est juste les photos, les plats, la description des plats, on a juste envie de manger en permanence. Donc,
L'idée n'était pas d'en faire un objet de torture, mais un objet de désir. L'envie d'aller peut-être au Bénin, à Cotonou, l'envie de découvrir autre chose. Et l'envie aussi de partager ce livre, c'est un peu transmission, beaucoup de partage, de découverte. Et depuis qu'il est sorti, j'ai eu la chance de faire quelques séances de rencontres, signatures, des choses comme ça, de présentation du livre dans différents endroits en France. Et le public est assez hétéroclite. Il y a des personnes qui l'ont acheté parce qu'en le feuilletant, ça leur a rappelé des souvenirs et ils se sont dit, mon Dieu, mais il me faut absolument ça. Et peut-être même des plats de leur enfance aussi qu'ils avaient complètement mis de côté ou auxquels ils ne pensaient plus. Il y en a qui l'ont acheté aussi parce que leurs parents ont vécu à un moment donné au Bénin parce qu'ils étaient profs au lycée ou en mission ou quoi que ce soit. Donc, ils trouvaient ça drôle de pouvoir visiter à travers les pages de ce livre le pays dont on leur a parlé leurs parents. Parce qu'il faut savoir que le Bénin ne laisse personne indifférent, mais vraiment dans le bon sens du terme, les trois quarts du temps. Moi, j'ai rarement rencontré des gens qui me parlent de leur séjour ou de souvenirs du Bénin sans étoiles dans les yeux, quoi. C'est assez troublant.
Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, ce petit supplément d'âme?
Je ne sais pas, une forme de quiétude, l'histoire aussi du pays. C'est un pays qui a une histoire très riche. Un tas de choses, les paysages, la mer, enfin c'est quand même un pays, j'allais dire, complet, dans le sens où, en remontant du sud au nord, mais vraiment on traverse des paysages très différents, donc Cotonou est en bord de mer, donc la mer Atlantique, et puis en remontant dans les terres, on va avoir des paysages de montagne, on a des vallées, puis plus haut, dans le nord, on a des cascades, une réserve naturelle aussi avec pas mal d'animaux sauvages, comme on dit. Non, mais voilà. Et une vraie richesse au niveau des langues, de la culture, de la mode, de la musique, de la danse, et puis de la cuisine.
Et de la cuisine qui change aussi beaucoup, ouais, en fonction d'où on se trouve, j'imagine.
Complètement. Mais comme en France, c'est-à-dire que on a une cuisine, en fait, qui varie d'un territoire à l'autre, d'un terroir à l'autre. Le même ingrédient est préparé de différentes manières. On va manger plus de viande à tel ou tel endroit, plus de poissons, plus de produits de la mer à un autre endroit. Dans le nord, par exemple, ils mangent moins de poissons que nous qui sommes dans le sud finalement, parce que ils ont moins accès facilement à la mer.
À la mer, ce qui est assez logique en fait, c'est aussi on mange ce qu'on a sous la main et ce qu'on peut cuisiner et du coup qui rentre dans les recettes et les traditions. Justement là, si c'est quelque chose que j'aime bien, vous le savez peut-être si vous avez écouté Le Goût du Monde déjà, j'aime bien fermer les yeux et j'aime bien vous demander justement de nous transporter chez vous. Alors ça peut être à Cotonou, à côté de Cotonou, où vous voulez. Et puis racontez-nous où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on voit, quelle est la température.
Mais c'est trop dur, parce qu'il y a trop d'endroits où quand je ferme les yeux, comme je tiens pas en place, je pense que je vais vous emmener en bord de mer. Cotonou est vraiment longé par ce bord de mer. Et nous, on a un rapport un peu différent à la mer de celui qu'on peut avoir de ce côté-ci du monde. C'est qu'on va pas à la mer spécialement pour se baigner, bronzer, lire des bouquins. On va à la mer pour déjà prendre l'air. Et le dimanche, par exemple, après la messe, on se retrouve du côté de... Pas sur la route encore de pêche qui nous mène à Ouida, mais juste là, à la sortie de Cotonou, pas loin de l'aéroport. Il y a des marchands ambulants qu'on a sur la plage. Donc, il fait chaud. Et la chaleur, on la ressent déjà en enlevant ses chaussures et en marchant dans le sable. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette sensation du sable chaud.
Très bien.
Voilà, sous la plante des pieds, il y a déjà les premières effluves là, de l'Atlantique là, qui viennent vous caresser comme ça la joue. Et les odeurs de grillade ou de beignets que proposent les vendeurs ambulants qui sont là pour l'occasion parce qu'ils savent qu'après la messe, entre autres, on a plusieurs personnes qui viennent un peu comme ça profiter du bord de mer. Et le soir, c'est encore une autre ambiance, toujours en bord de mer. Mais là, c'est plus festif, il y a de la musique, et ça fume encore plus parce qu'il y a des gigots d'agneau, des poulets, du poisson frit et des choses comme ça.
Ah, ça y est, on y est.
Je ne sais pas si je vous ai emmené là-bas,
mais moi j'y suis. Je ne sais pas quel beignet j'aurais pris. Parce qu'il y en a,
Différentes.
Il y en a plusieurs des beignets. Est-ce que le hablot est un beignet également ou pas?
Non, le hablot n'est pas un beignet. Je dirais plus un gâteau de riz. Moi, ça me fait penser un peu au bao.
Comme les petits pains chinois.
Les petits pains chinois, là.
À la vapeur, alors, du coup?
À la vapeur. Le hablot est cuit à la vapeur.
Bon, qu'est-ce que je mange, alors, sur la plage? Alors
ah, sur la plage, je peux manger du hata. Le hata, le beignet de haricots. Talé, c'est moins courant au bord de plage. Mais après, en fonction des horaires, en fait, le matin, ce qu'on va manger beaucoup dans les rues, c'est les bouillis, les yovo doko, les beignets de farine de blé. Et donc, yovo doko, en fait, ça veut dire beignet des blancs. Mais c'est blanc en référence à la farine de blé qui est importée, en fait. Voilà. Les hata, donc, les beignets de haricots aux yeux noirs, là, les haricots cornilles. On peut manger aussi, donc, les bouillis, j'en ai parlé.
Les clouilles, alors, je sais pas.
Ah, le clouille, c'est super. C'est une de mes bouillies préférées.
Ouais, ça, parce qu'il faut préciser quand même que la difficulté à laquelle j'ai été confrontée, hormis le fait que j'avais tout le temps envie de manger, ce sont les noms. Parce que tous les noms qui sont cités dans le livre sont généralement en langue fond.
Du sud. Répandu au sud, voilà. On va dire la langue officielle du sud.
Donc, comment vous dire quand on prend juste le sommaire, en fait? C'est hyper joli, hein. Mahoué, Gekpon, Akloui Coco, mais je
Sais, vous avez une prononciation très pointu, Clémence.
J'ai cherché. Mais donc, du coup, c'est déjà un voyage, parce qu'on ne sait pas, ça ne traduit pas du tout ce qu'on va pouvoir manger, même le yéké-yéké, les couscous. Et au fur et à mesure, on traduit, on regarde, et du coup, on a aussi les saveurs qui arrivent. Donc, cet akloui coco qu'on peut trouver dans la rue, c'est ça, c'est une bouillie de maïs. Racontez-nous
maïs fermenté. Mais avant de vous raconter le akloui coco, si vous permettez, j'aimerais dire que c'était une vraie réflexion. Enfin, je me suis posé vraiment la question de est-ce que je mets direct beignet de haricots ou est-ce que je mets les noms? Et l'occasion était trop belle, je vais pas écrire des livres tous les quatre matins. Mais finalement, de ne rien dénaturer, de la manière que j'ai voulu garder les recettes brutes. Là, on parlait de bao tout à l'heure. Eh ben, les Chinois nous disent pas beignet à base de, je ne sais quoi, de riz ou quoi. Ils disent bao. Quand on dit je mange un feu, on dit je mange un feu. Bon, ben voilà.
Mais d'autant que c'est pas nécessaire, parce que quand on lit votre livre, comme je le disais, il suffit, on regarde le nom, on se dit, ah tiens, c'est rigolo comme nom, d'accord, ok, Amiwo, c'est joli. Et il est composé de quoi? Et pourquoi? Et de toute façon, le plat est expliqué. Donc, pour qui prend le temps de lire comme un livre, parce que c'est un livre.
Oui.
Et c'est important, ça, que ce soit un livre, justement, parce que vous le dites dès le début.
Ouais.
Donner des noms à des plats, et en faire un livre, ce sont aussi des recettes qui vous ont été transmises, mais qui n'ont jamais été écrites.
Exact. Pour moi, c'est important. Dans quelques années, j'aimerais bien que, de la même manière qu'on dit « Ah ben, j'ai mangé un tiep dien, j'ai mangé un poulet yassa », on puisse dire ah, « ben, ce matin, je me suis fait un clouille, coco ». Coco, ça veut dire bouillie, en fait. Et akloui, le akloui, en fait, c'est une bouillie donc à base de maïs fermenté. Donc après, les différents stades de fermentation du maïs, je ne les maîtrise pas tous. Mais l'idée, en fait, à partir du maïs blanc, une fois qu'il a été moulu, on le fait tremper dans de l'eau. Et s'en suivent plusieurs jours de fermentation. Et ensuite, on le décante, on le passe dans un linge, on le laisse décanter. Et ensuite, l'eau récupérée va servir à une certaine préparation, donc le adoyo par exemple, qui est une boisson, et l'espèce de matière qu'on va récupérer, la pâte comme ça obtenue, l'espèce d'amidon qu'on obtient, c'est ça le maouais. Et à partir du maouais, on peut faire de la cassa, qui est une pâte blanche.
Là, j'ai tous les Haïtiens, il y en a pas mal là qui sont en train de faire « Oh, cassa, ça y est ouais. !» On en a perdu plein qui sont dans leur souvenir d'enfance.
Mais c'est bien parce que au moins, les gens, ils prennent des notes et ils sont obligés d'aller regarder comme vous avez fait. Et d'un coup, ils vont se rendre compte que eux, dans leur pays, ben, ça s'appelle comme ça. Et, ouais. Et voilà, parce que finalement, on peut penser que c'est une cuisine unique. Mais de par l'histoire aussi du Bénin, il y a beaucoup de gens qui sont partis du Bénin malgré eux et qui ont atterri dans d'autres contrées et qui ont gardé certains plats, certaines recettes et ont donné d'autres noms à des plats qui sont très similaires. Donc le akloui, c'est ça, c'est une donc le maouais ensuite qui est un tout petit peu séché et passé au tamis pour avoir des granules et ces granules sont portées à ébullition et ensuite on sucre ou pas. Donc quand vous le dégustez, il y a une forme d'acidité en fait qui se dégage. Mais très, très agréable. C'est un peu comme si vous mettiez du vinaigre dans de la maïzena et que vous faisiez cuire. Ben voilà, vous avez ce goût-là, un peu de... Le goût de la maïzena, mais renforcé avec un tout petit peu de vinaigre. Mmh. C'est ça, le goût du akloui. Mmh. Et moi, j'aime le akloui très sucré.
Vous le sucrez comment, justement, cet akloui?
Avec du sucre, des carreaux de sucre blanc. C'est très bon chaud. Et le must, c'est quand vous rajoutez des cacahuètes grillées dedans, quoi.
C'est ce que vous avez fait, d'ailleurs, dans le livre.
Ah, mais ça ne m'étonne pas que j'ai fait ça.
On voit les cacahuètes. D'ailleurs, la personne qui a pris ces photos, Maki Manoukian, vous a accompagnée pour ce voyage. Je crois qu'elle a encore des étincelles et des petites étoiles dans la voix.
Vous avez parlé avec elle?
Ah, bah oui.
Ah.
Alors, ce sera toute une journée qui m'a vraiment le plus marquée. C'était le réveil à 4h du matin. On s'est retrouvés avec Georgiana et on est partis toutes les deux à Ganvier en bateau sur la cité lacustre. Donc, on est partis dans le noir le plus total pour petit à petit découvrir la ville, les bateaux, les femmes qui cuisinent sur les bateaux, les odeurs, les saveurs, enfin voilà. Et puis, j'ai enchaîné cette journée par une visite fantastique où j'ai dévoré le meilleur plat que j'ai jamais mangé. Le cochon grillé de Oussou à Djira, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'était peut-être le meilleur repas que j'ai fait. Georgiana m'en voudra parce qu'elle n'était pas avec moi, mais en tout cas, moi, je me suis régalée.
De votre séjour au Bénin, qu'est-ce qui a fait un écho à la Georgiana que vous connaissez à Marseille ?
J'ai rencontré sa mère et j'étais vraiment ravie et j'étais très contente de la voir en famille. J'ai rencontré son frère, sa mère et c'est vrai que on n'est pas tout à fait identique quand on est avec sa famille. Donc oui, peut-être de la découvrir encore plus et plus dans le privé en tout cas. Elle a un immense sourire qu'elle ne quitte pas et ils sont vraiment partagés.
Il y a des accents béninois dans la cuisine de Georgiana à Marseille ?
Oui, je pense qu'elle met toujours des petites nuances, des petites saveurs. Alors, ça va être très discret, mais oui, clairement, elle a du Bénin dans sa cuisine. Ça va toujours être très discret, ça va être le petit condiment, donc le dja avec la focaccia, avec les petits légumes grillés. Maintenant, depuis cet été, je pense, elle fait de la focaccia à l'huile de palme. Donc, ça ramène un petit peu des saveurs de chez elle et elle l'associe à quelque chose d'un peu plus gastronomique, on va dire, qu'elle peut faire dans son resto. Oui, elle fait des petits mélanges comme ça, mais ça va être très discret.
Alors, vous n'êtes pas en colère ?
Bah si, parce qu'elle est partie manger son cochon grillé sans moi et qu'après, elle s'en est vantée et je vois qu'un an après, elle s'en vante encore.
C'est dommage, faudra m'emmener pour manger ce cochon grillé la prochaine fois.
Ne vous inquiétez pas, Clémence, on ira sans maquis.
Vous êtes assez d'accord avec ce qu'elle dit sur cette trame de fond des saveurs béninoises dans votre cuisine marseillaise ou...
Oui, je suis entièrement d'accord, mais je ne voudrais surtout pas que les gens pensent que je fais de la cuisine béninoise ou que je milite pour la cuisine béninoise. En fait, en France particulièrement, et... Les gens, en général, aiment bien vous mettre dans des cases, coller une étiquette et après, basta. Moi, je déteste ça. Voilà, je ne suis pas une chef de cuisine béninoise. Je suis une chef de cuisine d'origine béninoise. Voilà, je le porte déjà sur moi. Je suis très fière de mes origines. La bonne preuve, je consigne mes souvenirs gastronomiques, en tout cas de cuisine et tout ça, dans un livre qui porte le nom de ma ville natale. Et aujourd'hui, dans ma cuisine, comme dit justement Maki, on a des bribes de saveurs.
Des touches.
Voilà, des touches. Ça peut être des fois des techniques. Donc du coup, c'est totalement invisible au moment de la dégustation. Mais à Rouge, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui s'attendent à manger béninois tous les jours, quoi. Et en fait, non. Je suis profondément marseillaise, aussi marseillaise que je ne suis béninoise. Et mon terroir, c'est celui-là, c'est celui du Sud. Aujourd'hui, j'appréhende un autre terroir qui est celui du Gard. Mais je suis très loin du Bénin et donc c'est vraiment par touche et avec parcimonie.
C'est une culture culinaire en fait, c'est dans votre façon de cuisiner, comme vous avez appris et après vous l'exprimez.
Exactement, et j'aurais pu être une cuisinière béninoise et ça aurait été très bien aussi, mais c'est pas le cas.
Vous avez
et donc,
galéré pour les produits.
J'aurais galéré pour les produits et puis ça n'aurait peut-être pas... Je pense que demain, si je décidais de retourner vivre au Bénin, eh ben là pour le coup... Je pourrais m'approprier totalement cette cuisine-là et essayer de la retranscrire avec ce que j'aurais appris du coup dans mon terroir du Sud, parce que je serais à proximité des produits. Aujourd'hui, par rapport à ce que je veux transmettre dans ma cuisine, qui est une proximité de consommation des produits et tout ça, je vois pas l'intérêt de cuisiner tous les jours béninois, quoi. Par contre, faire découvrir cette culture-là, faire découvrir ces saveurs-là, oui.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser.
J'adore.
Avec les... Bah oui, c'est vous qui l'avez choisi.
Non, mais les paroles, elles sont simples et chouettes, quoi. C'est ça, en fait. L'Afrique, le Bénin, l'Afrique en général, et sûrement d'autres pays, mais c'est ça. Il y a des milliers de couleurs, il y a des milliers d'odeurs, il y a. Voilà, et quand on y va, ou quand on habite là-bas, tout n'est pas rose, mais. En tout cas, il y a toujours ça, quoi, le sourire.
Oui, le sourire. Mm. J'aime bien cette idée aussi de bienvenue. Il y a un accueil aussi.
Toujours.
Toujours. Alors, vous venez de nous rejoindre. Et vous faites bien. Vous écoutez le goût du monde sur RFI. Et cette voix-là qui cache un grand sourire. Je répète, j'ai le droit parce que j'en ai un grand aussi. Alors, du coup.
Voilà.
Et c'est Georgiana View, donc, qui est chef cuisinière. Cuisinière ou chef? Chef,
oh
c'est bien.
Oh là là, vous savez, hein, tout se dit maintenant, tout c'est possible, chef-feu.
Donc vous êtes une chef-feu, cuisinière chez Rouge, à Nîmes, dans le sud de la France, originaire du Bénin, et c'est bien le goût de Cotonou que l'on goûte aujourd'hui. On a parlé un petit peu de maïs. S'il y avait comme ça des produits qui sont vraiment emblématiques de la gastronomie béninoise, même s'ils sont arrivés un peu tard dans l'histoire du pays, lesquels seraient-ils?
Bah déjà, la base de l'assaisonnement, c'est l'ail, le poivre, le gingembre.
Ah, tout le monde s'attendait pas du tout à ça.
Hein. Ouais, je sais. Mais c'est ça aussi le fantasme de l'autre, de l'étranger, du lointain. C'est qu'on s'imagine plein de choses. Et parfois, non, on a juste...
on tombe à côté.
Voilà, on tombe à côté, on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça. Donc l'ail, le gingembre et le poivre, c'est des choses qu'on peut trouver ici. Le dja dont parlait Maki, par exemple, c'est une sauce tomate très réduite à base de tomates, de ces trois ingrédients-là. Et en fait, à la fin, on rajoute de la poudre de crevettes séchées. Donc vous voyez, c'est une recette qu'on peut faire partout dans le monde quasiment.
Mmh. Un peu de gingembre aussi, je crois.
Oui, c'est ça, la base. Gingembre, poivre, ail, ça c'est toujours la base. Hein.
D'accord.
On les écrase ensemble. En fait, quand je dis écraser, en fait, c'est sur des meules de pierre.
Oui.
Mais ici, vous le broyez au mixeur ou dans un mortier, comme vous voulez. Mmh. Et la particularité de cette sauce, donc, c'est cette poudre de crevettes séchées. Mais après, si on est allergique aux crustacés, on peut faire sans. Et donc, ça va cuire très longtemps avec beaucoup d'huile, très longtemps, 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 longtemps à petit feu, et réduire complètement. Et après ça, ça se tartine, ça se mange avec des légumes, du riz.
Ce petit supplément d'âme, il est peut-être là justement dans cet ingrédient auquel on ne s'attend pas. Et pourtant, quand on le goûte, on est surpris. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à la journaliste et critique japonaise Shihiro Mazui, qui un jour est allée dans un restaurant béninois.
Sais lequel. Je connais tous ces petits secrets à Shihiro.
Il est dans votre cahier d'adresse dans le livre. Et bref, elle n'en est pas tout à fait revenue tout de suite.
Un de mes 5 restaurants préférés de Paris est un restaurant béninois. J'en parle pas parce que je ne veux surtout pas que ce soit envahi. Et là, il y a un plat. Alors, je ne retiens pas les noms des plats, mais il y a un plat qui m'a vraiment surprise la première fois parce que c'est une sorte de ragoût avec une viande. Alors, je sais plus si c'est du poulet ou du bœuf. Et dedans, tout mélangé, il y a des morceaux entiers de poisson séché, mais dur, hein. Dur, dur. Pas autant que la bonite de chez nous, mais vraiment dur. Il faut mâcher. Et ce goût-là, le goût du poisson séché, je me suis dit, ça c'est l'umami japonais. C'est exactement pareil que ce qu'on fait. Et je ne l'ai rencontré nulle part ailleurs, parce que j'ai pas mal voyagé, je n'ai rencontré nulle part ailleurs cette façon d'utiliser l'umami du poisson pour assaisonner un plat. Alors c'est vrai que nous, le poisson, une fois que c'est assaisonné, on l'enlève, mais cette façon d'assaisonner un plat avec un poisson séché pour son umami, ça, c'est exactement le même principe. Et c'est surprenant de voir qu'on le fait au Japon et qu'on le fait... Enfin, moi, je l'ai connu dans un restaurant béninois.
Dans un restaurant béninois, dans plusieurs autres pays africains, on peut retrouver cette touche, justement, cette umami dont elle parle, des petites crevettes séchées ou de...
En tout cas, le fait d'assaisonner comme ça avec des produits de la mer qui ont été soit en saumure, soit séchés, soit fumés. Et moi, au restaurant, aujourd'hui... Un truc que je fais souvent, c'est que moi, je suis vraiment anti-gaspi, et notamment sur le poisson. Une fois que j'ai utilisé la chair, le ci, le là, et qu'il reste les carcasses, on va dire, je le fais un peu salé, et je laisse sécher au-dessus des fourneaux. Mais longtemps, longtemps, longtemps. Parfois, je le fume, parfois non. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, ces arêtes et ces têtes de poisson, en fait, changent de couleur, deviennent un peu comme ça, orange, et développe un goût. Je pense que c'est ça qu'on appelle l'umami. Et moi, en tout cas, je l'utilise pour parfumer des bouillons, des sauces et tout ça. Donc, je n'achète plus de bonite séchée, mais je fais ça.
Et ce qui est complètement logique, parce qu'en étant à Marseille, vous avez les produits de la mer, ce serait presque dommage de ne pas utiliser ça.
Bah, complètement.
En fait, j'ai envie de dire que l'Afrique, elle est là-dedans aussi. Quand vous dites, vous êtes anti-gaspille, vous êtes, on ne gaspille pas, ou peu. J'ai rarement entendu des gens, en tout cas dans le goût du monde, me dire, je jette le pain, tiens, je ne fais pas attention. Mmh. Le produit est utilisé vraiment dans son intégralité. Et quand on lit votre livre aussi, il y a une forme de militance, j'ai envie de dire.
Oui, mais après, moi, je ne parle ni de militantisme, ni
non,
de...
Non, moi non plus, c'est que je vois,
ni de,
moi je
ni
vois.
De choix de, voilà, ni de choix. C'est comme ça, c'est naturel, c'est en moi, depuis que je suis petite. Et très récemment, j'étais au Festival Omnivore, et j'expliquais ça, en fait, que c'est depuis toute petite que
On ne gaspille pas, on ne jette rien. À un moment dans le livre, je parle du Gary Photo de lendemain. Et donc, en apparence, on dirait des graines de couscous. Et puis quand on va se rapprocher, c'est un peu plus sec quand même. Et il faut toujours le mouiller un peu. Quand on veut le faire en Gary Photo, c'est un genre de taboulé finalement. Mm-hmm. Après, chacun y met ce qu'il veut. Et quand il nous reste des sauces, quand on a fait un mans par exemple, qui est une sauce à base de feuilles de morel ou d'épinards d'une manière générale, quand on a fait une sauce de poisson frais et qu'il en reste pas beaucoup pour refaire une portion ou nourrir toute la famille, eh ben le lendemain, on va y mettre du gari. C'est un truc qui gonfle dès qu'il est en contact avec l'humidité. On va le mélanger, on va ou rajouter du poisson, de la viande, de la tomate, de l'oignon, ce qu'on veut. Et ça refait un plat. Donc on ne jette rien. On se dit pas, tiens, il reste qu'une cuillère de sauce. Allez, dans la... Et en fait, moi, c'est comme ça. À la maison, de tout temps, ça a toujours été comme ça.
Moi, je voudrais aussi que vous me parliez de cette sauce feuille, la reine des sauces feuilles.
Le mantenjang.
S'il vous plaît. Je vais les goûter, ça.
Alors, mantenjang ou...
Donc, ment, c'est la feuille, déjà?
Le ment, en fait, oui. C'est la feuille et c'est aussi le nom de la sauce. Mais ment, c'est juste un bout de feuille. Il y a le gomant. Il y a le amant vivet, donc on retrouve toujours ment. Il y a le foment, c'est les différentes feuilles. Ça, c'est les noms en fond des différentes feuilles qu'on peut utiliser pour ces sauces-là. Au Congo, par exemple, au Zaïre, je crois qu'ils disent sakasaka.
Oui.
Voilà, c'est un peu l'équivalent. Au Cameroun, c'est le ndolé, je crois. Bon.
Oui, tout à fait.
Mais pour moi, le meilleur, c'est quand même les ments, quoi. Tenjang, c'est une abréviation de temenjang. Temenjang, ça veut dire à l'étroit, c'est-à-dire, je suis rentrée dans un taxi et temenjang, quoi. Bien taxi, mais bon, temenjang, ça veut dire on était un peu à l'étroit.
D'accord.
On était trop, un
il
peu serré.
Il manquait un peu de place. Quoi.
Voilà. Et le mantenjang, c'est la reine des sauces, des mans, parce que dedans, il y a tout. Il y a la terre, il y a la mer, il y a le Bénin, quoi. Ce dont parlait Chiro, il y a le poisson frais. Tu mets du poisson fumé, qui est du coup pas sec comme, ou dur comme à mâcher, comme elle le dit. Tu peux mettre de la couenne de bœuf, des crevettes, du crabe, de la viande. Donc, juste blanchi ou et fumé, de la moutarde africaine, le afinti.
Oui, alors ça, le afinti qui
se donne de nérée fermentée.
La graine de nérée qui se
mais entière, pas en poudre, là. Comme on peut trouver Nététou, Sumbala, tout ça.
D'accord,
nous,
non,
c'est vraiment
la
entier. Quand j'en fais à rouge, quand j'ai l'occasion d'en avoir et que j'en fais à rouge, les gens me disent, très particulier votre fromage. Ah bon, vous avez trouvé que ça avait goût de fromage? Oui, l'odeur surtout.
Oui, il y a un chef mauritanien.
Donc ça
comme
fait
ça,
beaucoup penser fait, ouais, à un bleu risotto, ou ouais. Un truc. Donc j'ai même une chef nimoise, je crois, qui l'utilise dans un risotto.
Oui, c'est ça.
Ça me viendrait pas à l'idée, mais
mon chef
voyez,
mauritanien
quoi...
à Paris fait un risotto comme ça, végétarien, parce qu'il met du néré, donc du coup, ça.
Donc de... voilà. Et donc le mantenjang, il y a la petite histoire qui raconte une anecdote. Je crois que je la donne dans le livre que. Quand un homme courtise plusieurs femmes et qu'il n'arrive pas à se décider, il finit par leur demander de faire un mantenjang. Et celle qui aura ses faveurs, c'est celle dont le mantenjang sera le plus équilibré. Mais pour moi, évidemment, le meilleur mantenjang au monde, c'est celui de ma mère. Pas celui de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait mieux d'autres choses en cuisine. Mais le mantenjang, ma mère, elle a vraiment une patience. Enfin, elle le fait d'une manière... C'est un truc qui prend... Allez, je sais pas, une demi-heure à faire. Elle, ça peut prendre 3 heures. Elle met d'abord les petits oignons. Et puis ensuite, une fois que les oignons ont sué, elle va rajouter le condiment ail, gingembre, poivre. Elle laisse cuire, elle couvre, elle découvre, elle rajoute la viande parce que ça va avoir une cuisson plus longue. Et puis ensuite, si, et à la fin, les poissons, le crabe, le ci, le lac, qu'elle a déjà fait un peu rissoler avant. Et puis elle finit avec les oignons crus ou pas, les feuilles coupées, pas coupées, le piment à la fin qu'elle va juste écraser comme ça avec ses mains et déposer dessus, recouvrir pour juste avoir le parfum du piment et pas le goût. Enfin, c'est juste incroyable.
Magique. Incroyable.
C'est un plat qui a presque pas besoin de garniture, en fait.
Oui, c'est ça. Il se suffit à lui-même.
Il se suffit à lui-même. Et on peut le faire végétarien, hein, parce que là, je parle de tout.
Ouais.
Terre-mer. Vous voyez, on n'a rien inventé non plus. Hein, terre-mer, quoi. Ça fait longtemps qu'on surf et turf au Bénin.
Qu'on soit clair. On n'a rien inventé du tout. Votre mère, justement, elle est venue plutôt tard à la cuisine, telle que vous le racontez. Vu pas votre grand-mère.
En fait, elles ont eu la chance, comme moi, d'être nées dans une famille. Mon arrière-grand-mère ne cuisinait quasiment pas, je crois. C'est vraiment pas le truc qui la passionnait. Mon arrière-grand-mère, elle mangeait 3 trucs, elle était contente, quoi. Elle était sèche comme un clou. Mais ma grand-mère, un peu plus.
Et c'était pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde.
Ah oui, ma grand-mère, elle, peut-être parce qu'elle a eu une mère qui l'a pas trop emmenée en cuisine.
Ça, c'est une particularité aussi.
Mais complètement. Et pour que j'en parle, c'est parce que vraiment, c'est resté gravé là et qu'elle nous l'a martelé assez souvent, mais tranquillement. Hein. Et donc, moi, j'ai deux oncles et six tantes. Sont tous d'excellents cuisiniers et ont tous une spécialité ou une particularité. Ou en tout cas, j'aimais bien, quand j'étais ado, quand je rentrais à la maison, si quelqu'un avait fait à manger, en prenant la première cuillerée, je savais dire si c'était ma mère, si c'était ma tante, ou si c'était tonton Gabi qui était passé, qui avait laissé... Enfin, je savais.
Tonton Gabi, alors lui, il a une bonne part dans votre livre aussi.
Ouais, mais Gabriel Montero. C'est une bibliothèque...
Qui produit aussi, lui.
Oui, sur le tard, il s'est mis... Il a une formation d'économiste. Il a fait plein de choses dans sa vie. Et puis là, sur le tard, il a pris une parcelle de terrain et commencé à planter de l'igname, du manioc et tout ça. Et il fait travailler des femmes de l'endroit là où il a son... C'est à Cassato, où il a son usine, on va dire. Mais c'est plus comme une coopérative.
De transformation.
De transformation de ces produits-là, donc de l'igname et du manioc. Aussi des haricots. Et ces produits sont d'ailleurs vendus sous une marque ici en France, Racine.
Oui, qu'on reconnaît avec l'arbre sur la.
Ouais, voilà. Et c'est aussi distribué au Bénin. C'est un des tout premiers à avoir commencé ça il y a une vingtaine d'années. Maintenant, aujourd'hui, on trouve plein de personnes aussi qui font ça. Mais c'est un monsieur, en fait, qui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il touche, il va toujours au fond du truc. Donc, il sait presque tout sur tout. En tout cas, tout ce à quoi il s'est intéressé, il sait en parler en long et en large. Donc oui, je suis allée le voir. Parce qu'il a une très grande mémoire, une très bonne connaissance aussi de l'histoire du pays, de l'histoire des produits. À une époque, avec des amis ou collaborateurs, ingénieurs agronomes aussi, ils ont mis en place plein de systèmes sur, bah, du coup, lui, il le transforme comme ça, mais comment lyophiliser, comment pouvoir transformer certains aliments pour les conserver longtemps, pourquoi tel ingrédient, quand on le moue ou qu'on le met dans de l'eau, enfin ça donne ça, enfin etc., etc.
Quel est le meilleur usage en fonction des produits?
Exactement. Et puis il a toujours des anecdotes sur pourquoi tel plat, le amiwa, s'appelle comme ça.
Il vous explique aussi, et vous nous expliquez aussi, pourquoi l'huile de palme, qui est mécomprise ici, est étrangement et mal regardée en définitive.
Mais parce qu'on a, ces dernières années, on a martelé dans les médias que l'huile de palme était mauvaise. Je prends souvent l'exemple de la cocaïne. La feuille de coca, à la base, elle a des vertus thérapeutiques, d'accord ? C'est une fois qu'elle est transformée, raffinée ou je ne sais quoi, qu'ils en font cette drogue abominable. Mais en vérité, à la base, c'est quelque chose, c'est juste une pauvre plante qui n'a rien demandé à personne. Eh bien, l'huile de palme, on n'en fait pas une drogue, mais ils en ont fait des plantations de partout, là où ils ont pu. Ils l'ont raffinée, la palme, la noix de palme, pour en faire des substitutions de vrais produits dans des productions agroalimentaires. Et au final, ça fait des dégâts. Parce que, à force d'en manger par petits bouts, par petits bouts, par petits bouts, voilà. Alors que, au Bénin, par exemple, et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, nous, on fait une extraction, alors je crois que c'est à froid, de cette huile de palme, qui est orange d'ailleurs. Plein de gens ne savent pas que c'est orange à la base. Et on n'en fait pas une surproduction. Et c'est très bon, et voilà, c'est quelque chose de très sain et de naturel.
Et en plus, c'est fabriqué de manière artisanale.
Totalement.
C'est l'aspect artisanal de la fabrication de l'huile de palme qui fait toute la différence en termes de respect de l'environnement et de production. Vive l'huile de palme.
Vive l'huile de palme et vive le solabi qui est l'alcool de palme.
Ça, décidément.
Je suis le gentleman viqué, j'aime beaucoup voyager. Et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Et moi je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. De ma guitare, une dame vient m'embrasser. Son mari, un ami, me regarde méchamment. Mais la dame est amoureuse de moi, elle n'a Dieu que pour moi. Elle dit à son mari,
coquin, je ne veux plus de toi. Attention, surveillez vos femmes. Attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Moi je suis un gentleman, au lieu de vous faire pleurer, je préfère semer la joie dans tous les cœurs. Je réconcilie les époux et je leur dis adieu. Je pars pour d'autres cieux, pour d'autres aventures. Mais partout, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours.
Bonjour, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Le Goût du Monde avec Georgiana Vieux, chef de cuisine au Rouge à Nîmes, qui vient nous parler aujourd'hui de son livre Le Goût de Cotonou.
Quelle est la part du sacré dans la cuisine au Bénin ?
90%. Non, j'ai l'impression, en faisant ce livre et en creusant un tout petit peu, en faisant des questions à Tonton Gabi justement, entre autres, le sacré a beaucoup de place dans la cuisine, dans la mesure où il y a beaucoup de plats qui sont aujourd'hui populaires ou qui ont été vulgarisés, qui sont partis soit des temples vaudous, soit de cérémonies spécifiques, soit des cours royales, d'accord? Il y a des plats qu'on faisait au roi pour telle ou telle occasion, il y a des plats qu'on faisait aux Amazones avant qu'elles ne partent en guerre, etc. Il y a des plats qu'on faisait pour remercier les ancêtres, il y a des plats qu'on faisait pour, etc., etc. Et l'un des exemples qu'on peut retrouver dans le livre, c'est le amiwa poulet. Donc, ami, c'est l'huile. Wa, c'est la pâte. Pas les pâtes qu'on a en Italie, hein. La pâte, toutes ces sortes de polenta qu'on fait pour accompagner les sauces. Donc, amiwa, de ce que j'ai retenu, c'est une fois qu'on a sacrifié un poulet, on le fait pocher, et l'eau de cuisson du poulet, dedans, on va venir mettre de la farine, parce que pour les sacrifices, parfois, on utilise aussi un peu de farine, l'huile de palme, encore elle, le sang de l'animal et un peu de farine. Alors, le pourquoi du comment, je ne veux pas dire de bêtises, donc voilà, c'est des choses, en tout cas, qui reviennent dans les sacrifices. Et là, pour le amiwa poulet, donc le poulet est blanchi, et l'eau de cuisson est utilisée pour cuire la farine restante, et on y rajoute un peu d'huile de palme aussi, tu vois. Donc, tous ces ingrédients qui ont servi à faire le sacrifice se retrouvent aussi dans ce plat-là. Et ensuite, il est partagé entre les ancêtres et les personnes vivantes qui sont là. Donc, après, ça a été vulgarisé, c'est rentré dans la consommation populaire, on va dire. Et là, du coup, on a amélioré en mettant une purée de tomates, en assaisonnant. Et le poulet, du coup, on le fait braiser au feu de bois et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus goûtu. Mais dans les temples, apparemment, ça se faisait comme ça.
Avec la conscience aujourd'hui, quand on mange un amiwa, par exemple, on connaît l'origine ?
Non, tout le monde ne connaît pas l'origine. Je mentirais si je disais qu'on était tous conscients de ça. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Ce qui est très drôle, c'est que quand on a sillonné les routes du Bénin...
Qui est un pays, juste entre parenthèses, c'est un pays emblématique du vaudou. L'igname, sa racine emblématique également.
Non, c'est vraiment le... Ouais, parenthèse fermée, c'est le berceau du vaudou. On a même une journée, le 10 janvier, qui est maintenant une journée, la journée officielle. C'est considéré comme une religion à part entière au Bénin, quoi. Et le vaudou n'est pas synonyme de maléfisme ou de sorcellerie, quoi. C'est des choses bien différentes, il faut le préciser aussi. Et en sillonnant les routes, par exemple, quand j'étais à la recherche du meilleur affiti, quand je voyais les nanas, les dames au marché et tout ça, je disais « Alors, et tout, c'est quoi le affiti ? C'est à base de quoi ? Comment vous le fabriquez ?» Et en fait, c'est aussi tout ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Alors, il mériterait qu'il y en ait un deuxième, un troisième pour expliquer d'autres choses et creuser un peu plus le propos. Mais en fait, on fait les choses, j'allais dire machinalement, mais comme on les a apprises, mais on n'est pas toujours capable d'expliquer le pourquoi du comment. Et le affiti, par exemple, nous au Bénin, on le mange ou en sauce, dans les mans, ou juste comme ça, avec un peu d'oignon, de tomate et de piment, avec un peu de gari, encore lui. Voilà, le affiti, c'est vraiment, je sais pas si c'est l'équivalent du tofu, mais...
c'est un ingrédient indispensable.
Moi, je trouve que le affiti, quand on te le dit pas, sauf les personnes qui le mangent comme ça, vraiment brut, avec un peu de piment, comme je disais, si on te dit pas, tu sais pas.
Non.
Faut vraiment le goûter brut
pour savoir ce que c'est, le goût que ça a. Mais une fois que c'est dans la sauce, tout, c'est un peu délité, sauf quand tu vas tomber sur ces morceaux de nerf et fermenter. Mmh.
Ce qui est amusant, c'est que vous avez parlé justement de cette transmission qui se fait oralement, où on dit les choses, on fait, on apprend, on n'a pas besoin de verbaliser concrètement. J'ai reçu Élise Bond, qui est le chef à Paris du restaurant Mikwabo, dont la femme est béninoise.
Tout à fait.
Et elle nous avait confié donc quelques-uns des goûts de son enfance, qui sont assez partagés, enfin que je retrouve dans votre livre. Et elle s'était posé une question. Alors, je vous propose d'écouter cette question.
Avec plaisir.
Et peut-être d'y répondre.
On a de la pâte noire, on a du foufou de banane.
La pâte noire.
Oui, on a de la pâte noire. J'ai complètement oublié ma mère, parce que à chaque fois que j'essaye de déchiffrer un peu, c'est un peu compliqué parce que ma mère, elle a toujours les termes du pays et donc j'arrive pas à transposer. Donc je saurais pas dire en plus encore une fois ce que c'est, mais on a une pâte. Ouais. En fait, elle est plutôt marronâtre, mais on appelle la pâte noire.
La pâte noire dont parle Madame Bond, c'est une pâte avec de la farine de cos d'igname et c'est ce qu'on appelle le téliba. C'est la pâte noire et c'est une de mes pâtes préférées.
Et la recette est dans le livre.
Et la recette est dans le livre. Donc on a la pâte noire, on a la pâte rouge, c'est le amiwa. On a la pâte blanche, il y en a différentes sortes. Soit avec de la farine directe, soit la cassa. Enfin, les pâtes blanches, il y en a beaucoup. Mais la pâte rouge, c'est le amiwa. Et la pâte noire, c'est le téliba. Et le téliba, c'est trop bon. Mais ça a un goût... C'est dur de dire ça parce que c'est bon pour moi, mais ça a un goût un peu neutre et en même temps, il y a toujours ce côté un peu fermenté, un peu acidulé derrière. Elle est beaucoup plus souple que certaines pâtes qui, en refroidissant, durcissent. Et on n'a même pas le temps de la mâcher, elle glisse comme ça directement dans le... C'est trop bon.
C'est idéal pour la nourriture de bébé, ça, non?
Ah, mais c'est les premières choses qu'on fait manger au bébé, c'est la pâte noire, la cassa très mou et le nenoui, qui est la sauce à base de feuilles de molokhia.
Et oui, parce qu'on a retrouvé avec la corette potagère.
Ouais, la corette potagère.
Elle est partout, celle-ci.
Ouais. Et là, ma recette, à moi, elle est avec de la fintine, justement. Et les bébés, c'est parce que ça glisse tout seul, quoi. Tu le prends comme ça. Et le bébé, il fait... Et pof, avant même qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit, tac, il a mangé. Et les adultes ont fait pareil. Hein.
C'est pareil.
Ça ne se mâche pas, ça. Ça,
bon, faut goûter. L'avantage, c'est que maintenant qu'on a la recette, on peut s'y essayer.
Oui, et j'aimerais dire aussi qu'il ne faut pas hésiter vraiment à tester certaines recettes. Il y en a vraiment qui sont dures, je ne vais pas vous mentir. Ça va être compliqué de rentrer dedans. Mais il y en a plein. Voilà, c'est sur 3 lignes, 4 lignes. Les ingrédients ne sont pas compliqués à trouver aujourd'hui à l'heure de l'Internet. En plus, on n'a même pas besoin de bouger de chez soi. Donc, il faut tenter, il faut tester et puis s'approprier ces recettes-là, quoi.
Je me suis amusée parce que vous habitez Marseille. À Marseille, il y a la Porte de l'Afrique qui surplombe le Vallon des Eaux. Et on est d'accord que vous venez d'un pays où l'on quittait l'Afrique vers l'ailleurs. Ça vous fait quoi, du coup? C'est une conscience pour vous? Vous y faites attention ou pas du tout?
Si, j'y fais attention, mais pas tous les matins en me rasant, non. Non, c'est important de ne pas oublier, quoi. Pour moi, c'est un devoir de mémoire, en fait, de rappeler ces moments-là. Et justement, à Marseille, cette porte, ce genre de symbole, bah, déjà, pour les personnes qui ne savent pas, mais du coup, attire l'œil, tu te rapproches, tu essaies de lire, ah, qu'est-ce qui s'est passé là, etc. L'équivalent au Bénin, c'est à Ouida, avec la porte du non-retour, où on a sur les parois un peu le dessin des esclaves qui partaient. Donc c'est juste, entre guillemets, juste une construction comme ça, une espèce de porte en plein milieu du sable en bord de mer. Mais c'est important. Et elle n'existe pas depuis très longtemps, cette porte du non-retour. Je crois qu'elle a 25 ou 30 ans. Donc c'est important parce que c'est encore une fois le devoir de mémoire. Et moi j'ai déjà emmené mes enfants là-bas pour leur dire « bon ben voilà ». D'où vient maman, là, et mais nos ancêtres, voilà, ben il y en a qui ont vendu des esclaves, d'autres ont été esclaves. Pourquoi, comment? Certains sont partis, et ben c'est de cet endroit-là qu'ils sont partis et tout. Après, ça touche pas, mais au moins on le sait. J'ai emmené une chef sud-africaine à cette même porte du retour, et j'ai été très surprise par sa réaction parce que au fur et à mesure que j'en parlais et que je lui donnais quelques explications. D'un coup, je l'ai vue, mais vraiment fondre en larmes, quoi. Même rien que d'en parler, moi ça m'émeut parce que. Et je me dis, bon, ben voilà, en fait, en fonction de nos vécus, on n'a pas tous la même approche ou le même ressenti par rapport à ce qui a pu se passer. On n'y était pas. Finalement, on est responsable de rien, mais on est touché. Parce qu'à un moment, ça fait écho à telle ou telle période de notre vie. Et moi, je suis hyper contente parce que cette conscience-là, je l'ai eue. J'étais encore adolescente quand il y a eu
un gros événement, je sais plus comment, où ils avaient proposé en fait une marche depuis le centre de Ouidah jusqu'à la porte du non-retour pour justement retracer ce trajet que faisaient les esclaves. Et c'est ma mère qui avait insisté pour qu'on y aille. Alors vous imaginez, quand vous avez 14, 15 ans, vous avez envie de faire autre chose que d'aller marcher. Enfin voilà quoi, c'est terrible de dire ça, mais on se disait, mais ouais, mais c'est bon, les esclaves, on sait, on a appris à l'école et tout machin, nanana. Et en fait, j'y suis allée un peu comme ça parce que je n'ai pas eu le choix d'y aller. Et au fur et à mesure qu'on marchait et qu'on traversait ces rues et tout ça, je l'ai pas vécu cette période, mais j'avais des images qui me venaient, j'avais des sons, et par rapport à ce que racontait aussi le guide et tout ça, et c'est drôle quoi, j'avais des sons, des images, des choses, et puis j'ai vu des films aussi sur l'esclavage et tout, donc tout ça se mélangeait à moi, et au moment où on arrive sur la plage, d'un coup tu te dis mais merde quoi, en fait c'est chaud quoi, pour parler comme les jeunes, c'est-à-dire que voilà, ces personnes, d'imaginer ce qu'elles ont pu ressentir à ce moment-là, toutes ne sont pas arrivées en plus à bon port. Et même celles qui sont arrivées à bon port, finalement, la vie qu'elles ont eue, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, si, c'est très important de le garder en mémoire.
Vous écrivez un livre qui permet en tout cas de le transmettre.
Exact.
Et une cuisine.
Exact.
Bon, alors, il nous faut un petit peu de réconfort. C'est par le sucre que passe le réconfort quand on est au Bénin ou pas?
Non, on n'est pas très sucré au Bénin, que dans le fruit, en tout cas. Le sucre, c'est beaucoup dans le fruit.
Alors, on va prendre quoi?
Ananas.
Ananas. Allez, c'est parti pour l'ananas. Ça me va bien. Normalement, dans le goût du monde, on demande un ingrédient et un ustensile.
Oh, l'ingrédient, ça serait le poivre à queue du Bénin. C'est un tout petit poivre. On en fait tellement pas qu'il n'aime pas non plus exporter à grande échelle ou quoi que ce soit. Mais il est très, très bon. Et petit, mais vaillant. Voilà. Et l'ananas aussi. J'aime bien l'ananas. Plein de sucre qui a eu la mention, le label IGP, indication géographique protégée. C'est un ananas qui a la particularité d'être très longiligne comme ça, avec des feuilles bien droites, bien. Il est moins boursouflé ou moins rond que l'ananas classique. Et sa chair est blanche. Donc quand on le coupe, on a l'impression qu'il est pas mûr. Mais en fait, il est hyper sucré et il ne laisse pas cette amertume que peut laisser l'ananas après. Vous savez, quand on mange de l'ananas et que vous buvez de l'eau après, vous avez l'impression d'avoir une forme d'acidité dans la bouche. Et bien avec le pain de sucre, vous n'avez pas ça. Et comme ustensile, j'en ai ramené deux, c'est le walati et le hasiké. Le walati, c'est une espèce de spatule, en fait, pour préparer la pâte. Hein. C'est la traduction littérale, c'est le bâton pour préparer la pâte, walati. Le bâton pour préparer la pâte. Et le hasiké, ben, c'est pour qu'une fois la pâte cuise, c'est une forme de corne, comme les cornes en pâtisserie, hein, qu'on trouve ici en plastique. Mais là, elle est en bois. Et pour venir chercher la pâte au fond de la casserole et remplir les petits ramequins avant de servir à table.
Merci Georgiana.
Merci Clémence.
Merci beaucoup. Donc votre cuisine se goûte en tout cas en ce moment à Nîmes, chez Rouge. Le goût de Cotonou et ses recettes écrites, ses histoires et ses textes sont édités chez Ducasse Éditions. Je ne peux que vous le conseiller en réalité. Les recettes sont assez faciles, j'en ai testé une hier soir.
Okay.
Et je m'en suis bien sortie, mais la plus simple. Un peu des tomates, des oignons, hop hop hop.
Le dja.
Donc ça, je m'en suis pas mal sortie. Et vous, eh bien, racontez-nous, est-ce que vous connaissez la cuisine du Bénin? Qu'est-ce que vous aimez dans cette cuisine? Peut-être que vous avez des souvenirs à partager avec nous, des recettes. N'hésitez pas sur la page du Goût du Monde, sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Je vous rappelle le numéro 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation de cette émission. Bonjour à Delphine Bousquet, notre correspondante au Bénin, au Club RFI de Cotonou et Ouidah également. Et à Eric Amien, merci à vous tous de nous être fidèles chaque semaine. On se donne rendez-vous samedi prochain. Ah, Georgiana voulait nous dire quelque chose.
Oui, quitte à dire bonjour à plein de gens, j'aimerais dire bonjour à mon chéri, mes enfants et ma maman, parce que oui, voilà, elle va sûrement écouter l'émission.
Qu'on
et
salue.
Aussi à l'équipe d'une librairie rue de Bagnolet, la librairie de l'équipage, en fait, qui m'a conseillé de venir chez vous dans votre émission. Et j'ai dit, mais ça tombe bien, j'y vais. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci l'équipage, vous êtes voilà. Très bien informés. Vous venez quand vous voulez. Bonne semaine à tous.